Deauville.ch.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
L'angoisse n'est pas forcément la bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la nature ?
J'ai bien plus peur des guerres et des tyrans qui mènent ce monde. Oui, mais ce sont des personnes qui sont forcément anxieuses en elles-mêmes.
C'est pour ça que je suis ici à la nature.
Bonjour Jean-Marc Richard.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue dans cet univers un peu particulier de l'éco-anxiété. Alors tout à l'heure avec notre invité, on définira un peu ce qu'est l'éco-anxiété. Mais la question du jour, c'est de savoir si c'est la maladie du siècle, ou du siècle actuel, ou du siècle à venir peut-être. C'est une question que peu d'internautes ont abordée de front. Par contre, elles et ils nous ont dit que tout cela, si ça arrivait, c'était la faute à la peur. Et la peur est pour beaucoup générée par les infos ici, à la radio, à la télévision, dans les journaux et le monde qui nous entoure. Il y a même eu cette phrase qui dit « Une civilisation sur sa fin ne peut avoir que de l'anxiété ». Mais tout le monde est assez d'accord avec cette dame qu'on a entendue tout à l'heure dans le Vox Populi pour dire que l'éco-anxiété n'existe pas s'il n'y a pas un terrain fertile à cela et que c'est peut-être plutôt du domaine de la comorbidité, qui est un terme absolument affreux, mais qui veut dire en gros qu'on peut avoir plusieurs angoisses pour plusieurs types de problématiques. On en parlera avec notre invité, mais surtout on vous attend. On aimerait savoir, au-delà de cette question, l'éco-anxiété est-elle la maladie du siècle ? Comment vous percevez l'éco-anxiété ? Comment vous la vivez ? N'hésitez pas, 079 844 00 77.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Et alors, concrètement, l'éco-anxiété, est-ce le mal du siècle, Eliane Rossier ?
Tristesse, colère, culpabilité, sentiment d'impuissance ou d'injustice, ce sont des émotions de plus en plus partagées face au dérèglement climatique et aux catastrophes naturelles. Mais rappelons-le, l'éco-anxiété n'est pas une pathologie. Certains y voient même une forme de lucidité face à l'état du monde.
Un sujet à la croisée de la santé mentale et de la durabilité.
La lutte contre le changement climatique reste l'une des réponses pour éviter une crise de santé mentale liée au climat. Et cette inquiétude est largement partagée. Selon une étude publiée dans The Lancet, près de 60% des jeunes interrogés dans 10 pays se disent très préoccupés par le changement climatique.
Et d'ailleurs, les indicateurs restent préoccupants. Et
la Suisse a atteint hier son jour du dépassement, le moment où les ressources naturelles disponibles pour l'année sont déjà épuisées. Le pays vit donc à crédit écologique jusqu'à la fin de l'année, en dépendant notamment d'énergies importées comme le pétrole, le gaz ou l'uranium. Alors, entre inquiétude, fatigue et réalité des chiffres, l'éco-anxiété est-elle un excès d'émotion ou le reflet d'un problème bien réel ? À vous d'abord d'en parler.
Merci Yann Rossier.
Avec ce terme lucidité que je trouve très intéressant et on va en parler aussi tout à l'heure avec notre invité, Mathieu Lévesque, psychologue FSP. Merci de nous avoir rejoints Mathieu.
C'est à vous.
Bonjour. Et on va d'abord se pencher vers ce qu'en disent les gens dans la rue ou dans les parcs lausannois qui sont bien verts. On les a testés hier avec Sarah pour tendre nos micros.
Oui, mais ce sont des personnes qui sont forcément anxieuses en elles-mêmes. Mm-hmm. Et ça vient se loger sur l'écologie comme ça peut se loger sur la vieillesse, sur, voilà, mm-hmm. sur bien d'autres pans de l'existence, je pense.
Bien sûr. Oui, je réfléchis par rapport à cette chose. C'est pour ça que je suis ici à la nature.
Être préoccupé pour construire plutôt qu'anxieux pour se protéger, c'est la fin du monde et tout ça. Mais c'est une préoccupation très importante.
Voilà ce qui ressort un peu de nos micros tendus. Dans les messages aussi, il y a beaucoup de messages et on entendra même des témoignages. On aura des téléphones tout à l'heure avec nous. Dans la plupart des messages, il n'y a pas la réponse à cette question. Est-ce que c'est la maladie du siècle ? Alors peut-être qu'on peut planter le décor directement. D'abord, en vous souhaitant la bienvenue, comme je le faisais tout à l'heure, j'aurais dû préciser que vous êtes un spécialiste, entre guillemets, de l'éco-anxiété, même si ce terme, ça vous plaît moyennement, hein, je crois, c'est juste hein.
Oui, donc du coup, moi, je suis psychologue FSP. À la base, ma formation de base, c'est neuropsychologie et j'ai travaillé en psychiatrie, notamment dans une structure auprès de jeunes, d'étudiants, étudiantes, qui, même si ce n'était pas le sujet de prime abord, les questions écologiques, en fait, c'est vraiment un thème qui revenait beaucoup par rapport à la... aux études, entreprises, etc. Et du coup, j'avais, c'était pas anecdotique, hein, beaucoup de témoignages qui revenaient sur j'essaie d'en parler à mes thérapeutes, mes psychiatres, etc. C'est un sujet qui est soit mis de côté, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon lieu, voire carrément des psychiatres qui étaient climato-sceptiques. Et du coup, l'idée a été de créer une consultation ouvertement sur l'éco-anxiété pour pouvoir avoir un espace pour évoquer toutes ces questions-là.
On règle le problème directement, comme ça on parle d'autre chose après. C'est un problème de génération ou pas ?
Non. C'est plus nuancé que ça. Alors c'est vrai que le cliché, c'est un peu les jeunes sont tous éco-anxieux, éco-anxieuses, et les boomers s'en foutent un peu. En fait, c'est beaucoup plus nuancé. Personnellement, moi, cliniquement, j'ai effectivement des jeunes qui s'inquiètent et qui, effectivement, ont leur vie devant eux. Donc, leur inquiétude, elle est prospective sur toute leur vie. Et en même temps, dans mes consultations, j'ai tous les âges, dont des personnes plus âgées. Sur les études épidémiologiques qui sortent, qui sont plutôt récentes, il n'y a pas d'effet clairement de l'âge. La seule petite chose qui ressort, c'est plutôt un effet de genre où plus les femmes seraient plus enclines à l'éco-anxiété, mais ça, c'est plutôt des aspects, comme on vient d'écouter là.
Sur la fertilité, oui, justement. Les femmes s'expriment plus.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus un biais d'éducation aux émotions plutôt que réellement.
On va voir si les hommes seront présents aujourd'hui pour exprimer leur avis sur l'éco-anxiété. Peut-être que vous la vivez, cette éco-anxiété. Peut-être que pas du tout, que vous pensez que c'est quelque chose qui est un peu dans la tendance mode. Alors n'hésitez pas à vous exprimer au 079 844 0077. On vous attend.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Ogier.
L'éco-anxiété, le mal du siècle, point d'interrogation, c'est notre question et votre parole jusqu'à 13h. Et Mathieu Lévesque, psychologue FSP, est notre invité.
Un très très beau message qu'on a reçu, qui est très touchant, qui dit « Bonjour, ma fille de 29 ans est en couple et refuse de faire un enfant vu l'état de la planète. Je me sens forcément responsable. Si j'ai été éduqué dans le respect de l'environnement, je pense que nos gouvernements auraient dû agir il y a bien longtemps, 30 ans en arrière, déjà minimum. Quel gâchis !» Alors à ce propos, on va en reparler évidemment parce que ça revient plusieurs fois, hein, cette envie de ne pas ou de ne pas avoir envie de faire d'enfant. Mais là, on a Quentin qui est au bout du fil au 079 844 0077 et qui va nous donner son sentiment sur ce thème de l'éco-anxiété.
Je dirais que ça change déjà suivant les générations. Ben pour moi qui ai moins de 30 ans, quand on voit les prévisions qui arrivent, les prévisions scientifiques, qui jusque-là ben, se sont avérées justes, ben, automatiquement, c'est plus difficile de se projeter pour nous qui avons encore un long passage sur Terre. À l'inverse, pour avoir discuté avec des personnes plus âgées, des fois, elles me disaient ouvertement ben, « c'est plus facile pour moi parce que je sais que d'ici 10 ans, 15 ans, je ne suis plus là ». Donc je pense déjà qu'une question un peu bêtement, mais de compteur, ben, il n'est pas pareil pour nous, notre génération, une qui est déjà plus âgée, en fait, déjà tout simplement. Hein. À la fois, des fois, il y a une réelle angoisse. Hein. Je me dis « mais waouh, mais... où est-ce qu'on va? Comment on va? On continue à faire ce qu'on fait? Oh là là. » Et à la fois, il y a quand même plein de petits gestes, des petites choses qui quand même m'encouragent et qui me disent « non, mais on va pouvoir trouver des solutions, on va pouvoir améliorer certaines choses. » Mais il y a quand même cette peur qu'elle a. Il y a quand même une anxiété, ouais, je pense. Ouais.
Merci beaucoup, Quentin. Mathieu, évidemment, on entend beaucoup parler d'éco-anxiété. C'est un terme qui vous convient, qui vous convient peu. Est-ce que l'éco-anxiété, c'est vraiment une anxiété très particulière par rapport à d'autres anxiétés ou pas ?
Oui, alors le terme, il a été utilisé pour la première fois en 1990 par une journaliste américaine dans un article qui décrivait l'inquiétude des habitants dans une vallée par rapport à la pollution de la rivière. Et bon, ce terme, il a été un peu invisibilisé. Il est revenu vraiment sur le devant de la scène là, ces dernières années. En particulier, à partir de 2017, il y a l'APA, donc l'American Psychological Association, qui le définit comme une peur chronique de la catastrophe environnementale. Donc ça officialise en fait un peu la définition. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition consensuelle, elle tourne toujours autour du même thème, mais ce qui est important dans ce terme, effectivement, c'est qu'on met le focus sur l'anxiété, donc l'émotion de peur derrière, et qu'en réalité, moi je parle plus d'éco-émotion, c'est-à-dire que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un panel, un spectre beaucoup plus large de ressentis, dont la tristesse, la culpabilité, l'impuissance, enfin... le désespoir parfois. Donc l'idée de mettre le focus sur l'anxiété, c'est vrai que dans le discours on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude, ce qui est plutôt, on disait tout à l'heure, une forme de lucidité par rapport à la réalité scientifique des chiffres. Et derrière tout ça, par exemple la colère C'est une émotion dont on parle beaucoup moins, mais qui est extrêmement présente au quotidien dans mon cabinet. L'indignation par rapport au manque d'action, que ce soit politique, ou des entreprises, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste l'anxiété.
On va écouter le message de Yann qui nous a appelé au 079 844 0077.
Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par cette anxiété. Ça peut être dû aux nouvelles qu'on voit à la télé ou qu'on écoute à la radio. Que, déjà, les bonnes nouvelles, ils n'existent quasiment pas quand on allume la radio. Vis-à-vis de ça, il n'y a personne de toute façon qui peut prédire ce qui va arriver. Ça ne m'affecte pas trop parce qu'on ne sait pas. J'ai de l'espoir que ça va bien finir.
Alors, je me suis permis d'aller sur les réseaux sociaux pour voir s'il y avait des témoignages de personnes qui souffrent d'éco-anxiété et j'ai trouvé un florilège que je vous propose d'écouter parce que je crois que ça va assez dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde la même chose.
Parfois, j'ai l'impression qu'on fait tous comme s'il se passait rien alors qu'on devrait être en panique, quoi.
Mon éco-anxiété, en fait, elle se manifeste par une peur et une angoisse énorme de l'avenir. Ça veut dire que dès que je pense à mon avenir, je sombre dans le puits sans fond de l'angoisse.
Je suis à la fois excédé, anxieux et dégoûté. Ce que j'ai peur de perdre avec tout ça, c'est le goût à la vie, tout simplement, et de finalement me retrouver demain dans un monde que je ne reconnaîtrai plus.
Je ressens de la colère. J'ai envie de prendre tout le monde et de foutre des claques aux gens en mode « faites votre mieux ». La passivité m'énerve énormément et c'est surtout de la colère.
Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur même si j'en ai envie, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que c'est bien d'avoir des enfants. En fait, je remets en question mes propres libertés, mes propres choix. Ça crée un gros décalage entre toi et ta famille, entre toi et tes proches.
J'ai peur, ma peur est de perdre la vie. Je suis angoissée par le fait que les générations futures ne pourront peut-être pas hériter d'un environnement viable.
Voilà un extrait de ce qu'on en trouve sur les réseaux sociaux. 079 844 0077. Parlez-nous de l'éco-anxiété, ce que vous en pensez, votre avis compte.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
L'éco-anxiété, le mal du siècle, c'est le thème de vous d'abord, avec notre invité qui est psychologue FSP, Mathieu Lévesque.
Vous êtes un éco-anxieux, vous, Mathieu, ou pas ?
Oui, en tout cas, je l'ai été.
Donc ça se soigne,
oui,
si vous en parlez au passé.
On peut apprendre à le gérer en mettant en place plein de choses au quotidien. Et après, l'idée, c'est de ça disparaît pas complètement. Il peut y avoir toujours des pics d'éco-anxiété par rapport à... Bah, justement, on parlait des nouvelles, alors quand il y a des catastrophes. Quoi. L'été, par exemple, je sais qu'après l'été, j'ai des pics de consultation par rapport aux catastrophes, aux canicules, aux feux de forêt, etc. Donc ça peut être très en miroir avec l'actualité. Et, donc du coup, effectivement, ça veut pas dire que ça disparaît. Et dans l'éco-anxiété, c'est pas le but de la faire disparaître, parce que l'éco-anxiété, elle peut être justement un moteur d'action, d'engagement. Tout dépend en fait du niveau d'anxiété. C'est-à-dire que si on reste dans un niveau faible à modéré, on va dire bah, c'est une émotion qui reste adaptative. Alors que si on dépasse des certains seuils avec bah, des crises d'angoisse ou enfin des choses, des symptômes vraiment anxieux ou sur d'autres émotions comme on disait, et qu'il y a une répercussion sur le fonctionnement de la personne, c'est-à-dire professionnel, personnel, relationnel, là ça devient, alors pathologique c'est pas le bon mot, mais ça interfère avec la vie quotidienne, quoi.
Un message, Valérie.
Oui, alors Julia sera contente de vous entendre, Mathieu Lévesque, puisqu'elle dit que ses angoisses ont commencé il y a un an, qu'elle a voulu en parler, mais que personne ne la prend au sérieux. Elle sait que c'est une maladie, mais elle a l'impression d'être seule à la vivre. Mon impression est que l'avenir est foutu, écrit-elle, et que je n'en vois aucun pour moi.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai contacté Julie, elle n'a pas voulu témoigner, mais dans un moment, on devrait avoir Muriel avec nous qui a vécu ça et qui a réussi à s'en sortir, en tout cas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, on devrait l'avoir avec nous. D'abord, on va retourner dans les parcs et la verdure lausannoise pour s'intéresser à ce qu'en pensent celles et ceux à qui nous avons tendu nos micros.
J'y pense un peu, mais je ne savais pas trop. Oui, parce que on voit un peu tout ce qui se passe, donc c'est un peu incertain comme futur.
Non, pas du tout. Mon âge, j'en ai plus rien à cirer. Hein.
Oui, moi, surtout pour ma fille plutôt, parce que j'ai une adolescente et puis, de 15 ans, et puis avec ce qui se passe maintenant un peu dans le monde, ça fait peur, surtout pour l'avenir de mon enfant.
Non, j'ai bien plus peur des guerres. et des tyrans qui mènent ce monde.
Alors là, c'est carrément de l'anxiété géopolitique. Ça existe aussi, on est d'accord, hein.
Oui, en tout cas, moi, j'observe vraiment depuis un temps dans mes consultations un élargissement des questions. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on parle d'éco-anxiété, donc reliée au climat spécifiquement. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de patientes qui vont élargir la question des angoisses par rapport à l'actualité, à la géopolitique, etc. Donc, et des personnes qui font vraiment le lien entre tout ça, et on est dans des crises entremêlées et systémiques. Et du coup, quand on comprend justement que beaucoup de choses sont interconnectées, bah, ça peut aussi augmenter l'anxiété.
On va écouter Gérald et puis juste après, on va trouver sur notre chemin téléphonique Muriel. Mais tout d'abord, le message de Gérald.
Alors, l'éco-anxiété, ben, en fait, on est dans une espèce de microcosme aujourd'hui où il faut faire cette sensation de peur. Si on prenait une image tout à fait basique, on pourrait avoir celle du parent qui gronde l'enfant pour qu'il puisse ensuite le consoler. Toutes les informations sont faites pour créer une espèce de peur et pour qu'ensuite on puisse, au niveau politique, mais ça n'engage que moi, se créer comme le sauveur de l'humanité. Voilà, je pense qu'on est dans un monde un peu fou, on oublie un peu de l'écoute du chant de l'oiseau et de la nature et des choses qui sont belles aussi, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui.
Muriel est avec nous au téléphone. Muriel qui a vécu l'éco-anxiété. Muriel, alors comment vous en êtes sortie?
Une fois que je me suis retrouvée tout au fond du trou, j'avais deux choix. C'était soit arrêter de vivre ou soit me prendre en main. Et puis à partir de là, j'ai fait des recherches. Et puis j'ai commencé à trouver sur Internet des mots sur ce que je vivais. Et puis j'ai intégré un programme. C'est là qu'on apprend à comment ça fonctionne, l'angoisse. Et puis comment s'en sortir. Et puis comment vivre avec. Et d'en être libéré quelque part, quoi. Renaître, quoi.
Et aujourd'hui, comment ça se passe?
C'est pas parfait, parce que c'est pas censé l'être. J'avais déjà eu des petits avertissements, on va dire, avant, mais je les ai pas écoutés. Et puis j'en suis même à dire que finalement, cette angoisse, il y a pas très longtemps, je me suis dit, je la remercie d'être arrivée. C'est le burn-out qui a déclenché de l'angoisse, ou inversement. Et puis c'est grâce à ça que j'ai enfin pris soin de moi, quoi.
Merci beaucoup Muriel. On va en reparler avec Mathieu dans quelques instants aussi de comment vivre avec, puisque apparemment on ne peut pas complètement l'effacer. Donc il faut apprendre à vivre avec. 079 844 00 77, bienvenue.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
L'éco-anxiété mal du siècle, on en parle dans Vous d'abord avec Mathieu Lévesque, psychologue FSP.
On va revenir avec vous, Mathieu, dans quelques instants sur cette dimension de vivre avec. Hein, parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans les témoignages qu'on a eus. C'était difficile pour les gens de témoigner vocalement, mais en tout cas, il y a pas mal de témoignages écrits. Juste avant cela, regardons un petit peu ce qu'en pensent les gens. Quand on va comme ça tendre son micro, c'est Sarah qui l'a fait pour ce sujet. C'est pas toujours évident au départ de savoir ce que c'est que l'éco-anxiété, hein, mais ça donne quand même des réponses intéressantes.
L'angoisse n'est pas forcément la bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la nature en gardant le sourire?
Il y a beaucoup de gens de ma classe, ils ont peur un peu. On a tous un peu peur de si on va passer ou comment ça va être, ou avec des copines aussi, on a peur de comment la vie va être dans 20-30 ans quand on aura des enfants, ou comment la vie va être. Ouais.
Alors moi, c'est surtout la qualité de l'air en ville. Effectivement, moi j'habite au centre-ville, je vois toutes ces voitures à la queue leu-leu avec une personne dedans. Je crois qu'on a complètement échoué sur la mobilité aujourd'hui.
Alors cette éco-anxiété, Mathieu, on peut vivre avec, comme le suggérait tout à l'heure Muriel, qui avait même remercié l'éco-anxiété, cette anxiété qu'elle a vécue.
Oui, parce que je disais tout à l'heure que ça pouvait vraiment être un réel moteur de changement et d'engagement. Donc, c'est-à-dire que là, il y a des études qui montrent qu'un niveau d'anxiété qui n'interfère pas avec la vie quotidienne, en fait, va être corrélé positivement à des engagements pro-environnementaux. Donc, c'est-à-dire que là, l'éco-anxiété, elle va toucher en termes identitaires des choix de vie, des choix professionnels. Et la première chose qu'on a à notre portée, c'est justement de questionner ces choix de vie, choix professionnels. Et c'est ce qui, en gros, redonne un peu la main sur cette anxiété dans notre vie, de orienter différemment, en fait, tous ces choix.
On va écouter le message ou un extrait du message que Anne nous a envoyé. Merci Anne, la deuxième partie de votre message, on la découvrira vendredi dans le récapitulatif. On va donc écouter cet extrait de message numéro 12, Valérie.
Alors bonjour, moi je pense que c'est pas forcément la maladie du siècle, l'éco-anxiété, parce que je me souviens que quand j'étais enfant, voire adolescente, on parlait déjà de la couche de, du trou dans la couche d'ozone, et que en fait, moi, ça m'inquiétait beaucoup en étant enfant, jeune ado, jeune adulte. Tout ce qu'on voyait, il y avait déjà des signes de dérèglement climatique. Et en fait, moi, ça m'avait. Je me souviens que étant enfant, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. On pourrait parler presque d'anxiété.
Voilà. C'est un extrait de son message. Ensuite, elle parle évidemment aussi de ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, mais on voit que c'est pas si récent que ça, ce type d'anxiété.
Non, en fait, on a loupé vraiment un virage dans les années 70. C'est-à-dire, dans les années 70, il y avait tout ce qui est né de la contre-culture, notamment aux États-Unis, etc. Et qu'en fait, il y avait une conscience écologique qui est née dans ces années-là et qui, en gros, il y a eu un énorme backlash dans les années 80 et on a un peu enterré la question. Et ça illustre aussi un peu les allers-retours. C'est-à-dire que là, on a eu l'écologie sur le devant de la scène pendant quelques années avec des grandes manifestations, 2018-2019, après il y a eu le Covid. Là, actuellement, on est de nouveau dans une sorte de backlash écologique, pardon. C'est au niveau politique, la question est quasiment plus discutée, il n'y a rien qui est mis en place, etc. Et là, on voit qu'en gros, il y a de nouveau une augmentation de l'éco-anxiété qui est très reliée justement à un niveau très faible de confiance, voire de défiance vis-à-vis des politiques, etc.
Alors, vous parlez effectivement des États-Unis, mais chez nous, par exemple, il faut se souvenir, fin des années 70, le géant vert, Daniel Brella, qui était le premier à alerter véritablement sur ces problématiques en Suisse, qui ensuite est devenu le premier parlementaire vert européen. Donc la Suisse était aussi assez sensible, je crois, à ces problématiques. Exprimez-vous sur ce sujet sans hésiter, vous avez encore du temps pour le faire, au 079 844 00 77.
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
L'éco-anxiété, mal du siècle, point d'interrogation. Et Mathieu Lévesque, psychologue FSP, notre invité.
Et avec vous, Mathieu, on va écouter ces quelques extraits de témoignages de personnes qui ont vécu ou vivent avec l'éco-anxiété que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux.
Pour la plupart de mes décisions, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que ça en vaut la peine? Alors que tout est en train de s'effondrer autour et de me sentir bloquée, en fait. De me sentir empêchée dans ce que je veux faire.
T'as la peur, tout simplement, de l'évolution du monde. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Ma liberté et mon mode de vie actuel.
Je me dis que je ne peux pas mettre au monde mes enfants dans ce monde, en fait. Et ça me frustre énormément.
Il y a des moments où, en fait, je suis en totale déprime. Et je me dis à quoi bon? Et j'ai peur de tomber dans une forme de laxisme et dans une certaine incapacité d'agir.
Ce que je trouve difficile aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec ses proches quand on fait des crises d'éco-anxiété. Comment en parler sans les faire paniquer, sans les traumatiser? Et puis sans se faire prendre pour une folle, parce qu'on est impacté par des événements qui ne nous touchent pas nous et qui touchent des personnes qu'on ne connaît pas, en fait.
C'est aussi le sentiment d'être un peu écrasé par ce truc qui me paraît beaucoup trop grand pour moi.
Ça, c'est un montage à la Netflix. Ça augmente en intensité pour
arriver. Ouais, c'est un montage à la Richard Netflix, parce que j'ai dû utiliser un peu la musique, effectivement. Et puis...
Tant de lucidité.
C'est ça, absolument. Et moi qui n'ai pas Netflix, vous voyez, du coup, je peux être influencé. Non, il y a beaucoup de choses dans ces extraits de témoignages. En particulier, quelque chose qui revient, ne pas pouvoir en parler, ça crée de la rupture avec ses proches. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir d'enfants ou faire d'enfants. Alors comment est-ce qu'on peut soigner tout ça? Comment est-ce qu'on peut vivre avec? Qu'est-ce que vous proposez, vous, Mathieu?
La première chose, c'est vraiment assez basique, mais c'est justement un espace safe pour pouvoir en parler et justement aller sur le terrain émotionnel. Donc là, on voit dans beaucoup de témoignages cette difficulté à pouvoir en parler à des proches, et que les motifs de consultation principaux que j'ai, c'est justement une atteinte au niveau relationnel, que ce soit dans un couple, au niveau des parents, des amis, qu'il y a un espèce de silence socialement construit, ne pas être le casseur d'ambiance dans une soirée qui va parler de ça, etc. Donc les personnes intériorisent toutes ces choses-là, et la première chose, c'est de pouvoir juste en parler, mettre des mots dessus. Ensuite, il n'y a pas une thérapie spécifique à proposer là-dessus. Là, il y a plein d'outils, plein de stratégies qui peuvent être mis en place et individualisées en fonction justement de ce qui est à l'avant-plan chez les patients, les patientes. Et là, la question des enfants, elle revient souvent, elle recroise la question des choix de vie dont on parlait tout à l'heure, avec un peu des opposés. Alors, il y a des gens qui sont assez catégoriques, je veux pas d'enfants, etc. Et des gens qui contredisent ça en disant, bah, au contraire, il faut continuer à faire des enfants, en les élevant avec les valeurs écologiques pour qu'ils puissent continuer à les porter, se battre, etc. Donc, pareil, là, c'est un peu plus nuancé sur cette question, mais effectivement, c'est des questions là qui vraiment sont au centre des consultations par rapport à tout ça.
Moi, je propose qu'on écoute le message de Claude André, qui est le message numéro 9, Valérie, si jamais. Donc, ça, vous voyez comment on communique entre nous. Ben, c'est normal, parce qu'il se passe plein de choses dans l'émission, et ce message arrive et tout. Et donc, je propose qu'on l'écoute.
Ma vision, elle est claire. C'est un phénomène de détresse émotionnelle en fulgurante augmentation, provoqué par l'ensemble de notre gestion de vie, de plus en plus trépidante, additionnée par la masse des informations et des mises en doute continuelles, tout en étant régulièrement déformé ou contesté. C'est aussi, à mon avis, un réflexe humain d'un monde qui commence à se rendre compte que rien ne peut continuer comme ça. Ça, on y va gentiment. On ne peut pas faire mieux, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour l'avenir, mais pour moi, on se rend compte que tout ce qu'on fait, ça devient presque de l'inutile.
Presque, il reste un petit espoir.
L'idée, c'est de... aussi, enfin, ce qui est important, on nous disait de ne pas pathologiser ces questions-là et aussi ne pas les individualiser. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, évidemment, on reçoit des patients, des patientes en individuel, mais que là, on touche à un sujet qui est vraiment sociétal, systémique, etc. Et que la réponse, elle doit pas être que individuelle et de, au contraire, porter la responsabilité sur les individus qui peut augmenter la culpabilité, etc. Donc c'est aussi, dans les propositions, c'est souvent de... Quand on dit se mettre en action, c'est rejoindre des collectifs, des associations, etc., pour s'entourer de personnes qui sont aussi sensibilisées sur ces sujets et ne moins se sentir seul. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi souvent, de se sentir isolé, seul par rapport à ces questions-là. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller dans des propositions plus collectives.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Mathieu Lévesque. Et vous revenez quand vous voulez. On a plein de sujets à aborder encore. Prochainement,
plein
ce sera...
de questions.
Ouais, alors, pas encore plein de questions. Ouais, 079 844 0077. Vous pouvez encore donner votre avis si vous en avez envie.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
L'éco-anxiété, le mal du siècle, point d'interrogation et dernière ligne droite. Donc, pour conclure.
Absolument. Et dernier message que je vous propose, sans autre forme de procès, d'écouter.
Avec les problèmes aussi de travail qui sont exacerbés et le management qui ressemble à la société en fait, ou l'inverse, où les événements mondiaux interagissent aussi, je pense, dans le monde du travail d'une manière ou d'une autre, avec la pression, l'insécurité du lendemain, du boulot, enfin ce genre de choses. Donc ça fait des facteurs en plus qui viennent taper sur le moral des gens. Et j'en fais partie, hein, je le cache pas. Et du coup, je pense que tout s'accumule, on arrive à des émotions incontrôlées, incontrôlables et qui prennent le dessus.
Voilà. Ça en dit long, effectivement, sur le fait que c'est pas seulement l'éco-anxiété, mais toutes les anxiétés peuvent se lier les unes aux autres. Merci, monsieur, pour votre message. La suite de votre message vendredi, on reviendra sur ce sujet, évidemment. Demain, on parle de toute autre chose. Faut-il taxer les vins étrangers pour sauver les vins de chez nous? J'ai bien dit sauver les vins de chez nous et nos vignerons et vigneronnes. Donc, n'hésitez pas. Faut-il taxer les vins de chez eux, enfin, les vins étrangers, au 079 800 44 00 77. Bonne journée, Valérie.